Les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Ouais, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios et notamment dans l'émission Cannabis Circus. Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, comme tous les lundis soirs, donc de 21h à 22h. Cannabis Circus qui décrypte l'actualité cannabique, l'actualité des drogues nationales, internationales, et voire même parfois locales. Et donc ce soir, on va encore parler bien évidemment de la marche mondiale du cannabis qui aura lieu samedi. Alors samedi à Lyon et dans la plupart des villes de France qui participent à l'événement. À Paris, il y aura aussi une marche mondiale le 9.
C'est ça.
C'est ça, hein, ouais. Donc, à Lyon, ça sera le 2, comme partout dans le monde, en fait, parce que selon les endroits, les années, les élections ou pas, bon, des fois, c'est le premier samedi, le deuxième, bon, là, c'est le premier, comme partout ailleurs dans le monde. Donc, un événement d'ampleur internationale, puisque, comme on vous dit, dans plus de 300 villes du monde, d'à peu près 40 pays, la marche mondiale du cannabis pour réclamer, encore une fois... un changement de politique sur les drogues et notamment sur le cannabis et c'est l'occasion de le faire de manière transnationale. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui participent à cet événement. Malheureusement, c'est pas toujours très peuplé quand on fait nos manifs en France, mais bon voilà, c'est quand même un événement qui compte à l'échelle de la planète. À l'appel de cette manifestation à Lyon qui départera à partir de 15h place Carnot au Lyon 2e. On se regroupe à partir de 14h30 et on part vers 15h, 15h10 en direction de la place des Terreaux en passant par la rue Victor Hugo, la place Bellecour, la rue de la République, la rue Joseph Serlin et on arrive place des Terreaux aux alentours de 17h. Si vous participez, si vous venez, et j'espère que vous allez venir, et vous allez venir participer avec nous, marcher avec nous, vous verrez sans doute la police, mais elle sera là pour nous protéger, pour nous encadrer et pas pour vous faire peur. D'ailleurs, faut profiter de ce moment parce qu'on est mon manifeste pour cette cause-là et on est escorté par la police qui nous ouvre la voie. Donc voilà, il faut pas non plus paniquer. On vous attend nombreuses et nombreux. Il faut faire savoir qu'on est là et qu'on réclame un changement de politique, notamment sur l'aspect thérapeutique, sur les aspects récréatifs, avec la fin de la guerre aux usagers de drogue et notamment de cannabis, parce qu'ils sont 90% de ceux qui sont impliqués dans ces affaires. L'expansion, le développement d'une filière chanvre également, à l'appel de la marche mondiale, le cirque bien évidemment, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, les jeunes écologistes lyonnais, Europe Écologie les Verts, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, AIDE, l'association de lutte contre le sida AIDE, mais aussi un petit magasin reggae bien sympa dans le premier, c'est Liviti Reggae. Il y a aussi Lion Soldier, Breda Sound System, pardon.
Voilà.
Et enfin, une petite boutique associative bien sympathique à Villeurbanne qui s'appelle le Jardin d'Éden, Jardin et compagnie. Voilà, j'ai oublié personne.
Fac Verte,
un syndicat écolo étudiant, bien évidemment. Donc voilà un peu comment ça va se passer à Lyon. Qu'est-ce que j'aurais oublié?
À Lyon, peut-être pas grand-chose. Les villes qui l'organisent en France,
ah oui,
on peut peut-être nommer Marseille.
Alors Marseille,
Toulouse,
Lille,
Poitiers
également, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa sans doute, Papeete.
Papeete,
il y a
ouais.
Tahiti Herb Culture là-bas qui anime cet événement. Rennes. Quelque chose, non?
Non, je crois pas. Après, il y a une page sur Internet, si vous voulez la regarder.
Comment Bourges? Non. Je Je ne me rappelle plus.
Non, il a dit Poitiers, mais je ne sais plus.
Tours.
Ils font la marche Tours mondiale.
Également, de je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose à Nice également.
Je ne sais pas, je ne crois pas, mais.
Ouais. Donc voilà, il y a quand même pas mal de villes en France qui participent à l'événement. Encore une fois, on le rappelle, il faut se bouger. On est des millions à être concernés en France. Et dans le monde également, on verra juste après. Cette loi sur les drogues qui existe en France, incarnée par la loi de 70, est une loi qui concerne tout le monde. Voilà, tout le monde, pas uniquement les consommateurs, mais ça concerne également les proches, les parents de celles et ceux qui consomment et qui pensent que cette loi protège leurs enfants, protège la société. Alors c'est complètement faux. On est en train de s'en apercevoir quotidiennement dans le Colorado, dans l'état de Washington, où la délinquance a chuté. Et l'appréhension du phénomène et des usagers s'est nettement pacifiée ces deux dernières années, ce qui permet justement à des personnes qui peuvent souffrir d'une addiction de demander de l'aide beaucoup plus simplement et d'en recevoir plus facilement aussi. Voilà, c'est toujours ça qu'il faut rabâcher, la prohibition, la criminalisation, la stigmatisation, la culpabilisation, ça ne sert à rien. Ça fait pas baisser les niveaux de consommation, on le voit en France, où il y a quand même un niveau de consommation très élevé. On va en reparler également durant cette émission avec les articles qui sont parus dernièrement dans la presse, notamment dans Le Monde. Voilà. Donc on va passer un peu de musique.
Ouais, c'est juste, puis, ouais, juste si je peux rajouter avant de passer à la musique.
Tout à fait.
C'est que, comme vous avez dit, c'est au départ de la place Carnot à 15h. Et il faut savoir que c'est une manifestation qui est autorisée.
Voilà, donc c'est pour avoir... ça qu'il y avait la police au départ. C'est, voilà. C'est bien de le dire, c'est une manifestation autorisée par la préfecture.
Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez des cartes police pour nous encadrer. Parce que justement, nous, on fait cette demande d'autorisation et automatiquement, voilà, on est encadré par la police, faut pas avoir peur. Et plus on sera, et mieux ça sera, et moins vous avez à avoir peur, quoi. Mais souvent, c'est sûr que si on se retrouve à une vingtaine, c'est toujours gênant de se montrer. Mais bon, voilà, arrivons 1000 personnes et vous verrez que l'ambiance sera bonne. Venez avec un peu de bruit, mais sans plus, sifflet, batterie.
Jongleur et chassier, si vous voulez.
Voilà. Nous, on a
de
des panneaux pour encadrer la marche.
Banderoles.
Des banderoles.
On a un microphone avec quelqu'un qui parle dedans pendant 2 heures.
Voilà, c'est ça.
Donc, il y a une animation.
Donc voilà, n'hésitez pas à venir avec vos potes, et puis c'est toujours festif, en général ça se passe toujours très très bien, et on est là, comme on vient de vous dire, pour un changement de politique en matière de cannabis. Alors si vous vous sentez concerné, venez s'il vous plaît, partout en France, partout dans le monde, dans beaucoup de pays au monde. J'ai vu en Équateur, ils font une marche mondiale, j'ai vu enfin Rome, toutes les grandes villes d'Europe, du monde, participent à la marche mondiale. Alors venez à Lyon, venez à Paris, venez à Marseille, à Toulouse, et faisons un peu le buzz.
Voilà. Voilà. Allez, musique maestro.
Et puis ce soir, ça sera hip-hop essentiellement, ou complètement d'ailleurs. On commence avec The Disposable Heroes of Hypocrisy, un album sorti dans les années 90 avec Satanic Reverse.
In the 1970s, the OPEC nations began to dominate the world's oil economy. In the 1980s, Japan became the world's number one economic power. In 1989, the nations of Eastern Europe attempted to restructure. While in the United States, civil rights had collapsed at the hands of fundamentalists and national insecurities at an all-time high. Exxon and on and on and on, the ministers of double speak, new meaning of clean, I try to teach us. The stage of only shampoo of the Valdez greases, complete Jericho the bitches. Pipe bomb for the NAACP, and a hit
or Salman Rushdie. The Berlin Wall comes down and the U.S. cracks down on illegal aliens. Ban the freedom of choice for those wanting abortion and enforce capital punishment. 24-hour radio ban for indecency determined by the FUCC. Why are we so anesthetized to the lies? Because we do it in our own lives. We believe all the things that we want to hear, but then we also love to criticize. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. In 1992, the European Economic Community will reform. In 1997, the city of Hong Kong will become a part of the People's Republic of China. In 1999, and this is no coincidence, the nation of Panama will control its own canal. While in the United States, civil rights have collapsed at the hands of fundamentalists, and national insecurity is at an all-time high. Hell to ban the photograph of the piss Christ. It's sacrilegious, not an art. For we all try to discern between our cup of tea and what we call obscenity. The House's legislation rips the phony foundation of what we thought inherent. Sent Joey to the Supreme Court because he made a statement. They called it desecration of the symbol that was meant to represent the freedom of so-called choice and dissent. They almost had me believing it. They were bleeding it. He said, burn, baby, burn to the streets. Samurai said to my face that any flags where the ship was rolled from fire in the first place. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses. Bail out the banks, we'll march to the churches. Satanic reverses.
Disposable Heroes of Hypocrisy, voilà, un morceau qui nous vient d'un autre temps, d'un autre siècle. Bref, bon, alors on va tout de suite rentrer dans le vif sujet. On va aller, on va parler parce que c'est quand même vraiment important, de Serge Atlaoui, un Français qui est condamné à mort. Ça a fait la une des journaux ces derniers jours, notamment ce week-end. Un Français qui est donc menacé de mort en Indonésie. Encore un, j'ai envie de dire. La liste est longue. Hein. Alors là, on parle de lui, bien sûr. Les médias n'ont pas retracé l'historique des personnes condamnées pour trafic de drogue ou en Indonésie ou en Malaisie, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a une Française dans les années 80 qui avait échappé à la mort de peu aussi. Donc voilà, Atlaoui, qui avait trouvé un petit boulot, un boulot avec un pote à lui dans une usine d'acrylique en Indonésie. Et il y a eu une descente de police dans cette usine qui s'avérait être une usine fabriquant des amphétamines. je crois, ou enfin quelque chose comme ça. Et en Indonésie, bah, ça rigole pas. Ça rigole pas au niveau des drogues. Il y a quand même quelqu'un qui est bien connu, dont on a souvent parlé à cette antenne, c'est Michael Blanc, en 1999, qui avait été arrêté à Bali avec soi-disant 2 kilos de hashish dans ses bouteilles de plongée sous-marine, qui avait toujours nié qu'il transportait quelque chose, qui avait été condamné à mort, et il y avait une grosse campagne internationale, notamment en France, à l'initiative de Thierry Ardisson. Sa peine de mort avait été commuée en peine de prison à vie, et puis là, il y a un an et demi, il a été libéré, mais il ne peut pas sortir de l'Indonésie, donc il est assigné à résidence en Indonésie, il ne peut pas quitter le pays. Il était passé pas loin. Voilà, la pression internationale à l'époque avait quand même porté ses fruits. Bon, alors voilà, encore une fois, quelqu'un se retrouve pris dans les serres de ces lois anti-drogue. Alors, les journaux s'en sont fait les échos. Alors, Metro News notamment, j'ai sélectionné cet article parce que dans cet article, on nous explique les trois raisons pour lesquels Atlaoui, ben, il risque bien malheureusement de passer de vie à trépas, d'être exécuté. Donc dans Metro News, on nous dit que ce nouveau président, qui s'appelle Joko Widodo, surnommé Jokowi, n'est pas issu du sérail militaire, en fait, comme tous les présidents avant lui, et il passe un peu pour un mou. Alors il faut qu'il montre qu'il est viril, quoi, en fait, hein, qu'il est couillu, quoi, hein, et qu'il va pas succomber à la pression internationale, et donc voilà, pour montrer qu'il en a, hein, et ben voilà, donc déjà ça c'est mal barré. Il y a aussi quelque chose dont il faut tenir compte, c'est la production importante de drogue de synthèse en Indonésie, et pas qu'en Indonésie, mais dans une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. Il faut savoir qu'il y a des grosses tensions entre l'Indonésie et l'Australie également, qui sont un peu les occidentaux de cette partie du monde. Il y a une forte migration des Indonésiens vers l'Australie. L'Australie, qui est vraiment tolérance plus que zéro au niveau de l'immigration, ne veut plus être tolérant au niveau de l'accueil des Indonésiens qui, comme c'est le cas avec ce qui se passe dans la Méditerranée actuellement, ben, y a beaucoup d'Indonésiens qui partent en bateau sur des canaux et qui essaient d'arriver en Indonésie. Les politiques australiennes sont extrêmement fermes là-dessus, mais beaucoup d'Australiens vont en Indonésie, à Bali, en tant que touristes. Et d'ailleurs, avec Atlaoui, il y a des Australiens qui sont poursuivis et qui risquent d'être condamnés également. Et là-dessus aussi, justement, il faut montrer qu'on est viril. Voilà, et que, bon, hein, vous êtes la tolérance zéro avec nos migrants qui viennent de chez nous pour aller chez vous en Australie. Nous, on va être aussi intolérants avec les Occidentaux qui sont impliqués dans des affaires de drogue en Indonésie. Ensuite, une autre raison, c'est qu'il y a un gros soutien. 80% de l'opinion publique indonésienne est favorable à l'exécution des personnes arrêtées pour des affaires de drogue, trafiquants ou même consommateurs parfois. Et il y a quand même une raison qu'on oublie toujours et qui nous est rappelée par notre ami canactiviste Raphaël, l'homme qui roule plus vite que son ombre, et qui nous rappelle, et je voulais vraiment vous en parler, c'est qu'en fait, voilà, cette histoire de loi, elle vient pas de l'Indonésie comme ça. C'est une imposition qui a été menée, une croisade qui a été menée par les États-Unis et par Anslinger, dont on vous a déjà parlé, et par la diplomatie américaine dans les années 60, et avec la signature de la Convention unique sur les stupéfiants en 61. Et cette convention a été, on a imposé au monde entier des lois extrêmement sévères sur la drogue, le trafic, la production et l'usage. Et des pays producteurs comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Afghanistan, les pays du Maghreb, des pays d'Amérique latine, qui avaient dans leur culture, en tout cas, un usage traditionnel de ces plantes, se sont vus dans l'obligation de les interdire. Et avec des lois extrêmement fortes, sous la pression des États-Unis. Et voilà ce qui arrive. 50 ans après, c'est pas la première fois. Monsieur Atlaoui, lui, visiblement, n'a rien à voir avec le schmilblick de l'usage de cannabis ou de drogue ou de quoi que ce soit. Mais c'est une victime collatérale de cette guerre à la drogue qui vise également toute personne pouvant être proche ou en contact avec quelqu'un qui peut être impliqué dans une affaire de drogue. Et qui la criminalise également. Voilà, donc soutien pour Atlaoui, faites-le savoir, partagez des infos sur les réseaux sociaux. alerter l'opinion publique et alerter également l'ambassade indonésienne à Paris. Peut-être que ça peut leur faire changer d'avis. En tout cas, pour la marche mondiale, on aura une petite pensée pour Atlaoui, qui est victime de ces lois sur les drogues, comme beaucoup d'usagers de cannabis, notamment dans le monde.
Il y a eu deux rassemblements cette semaine.
Il y en a eu un ce week-end à Paris.
À Metz et à Paris, ouais, c'est ça. Et à savoir qu'il a déjà fait 10 ans de prison, parce que cette histoire, c'est déjà il y a 10 ans, il s'est fait arrêter. Donc ça fait déjà 10 ans qu'il est en prison. Et que là, pour l'instant, apparemment, il n'est pas dans le prochain peloton.
La liste, voilà, des prochains
de mardi.
Arriver,
mardi qui arrive demain.
Ouais,
demain.
Il n'est pas dedans,
Voilà, il n'est pas dedans. C'est vrai que ces dernières semaines, la France a fait énormément de pression. Aidé par l'Europe, ou je sais pas si on peut dire aidé par l'Europe, mais Hollande a parlé que si
il parlait d'éventuelles
sanctions que l'Europe pourrait, voilà,
vont pas faire un embargo non plus, malheureusement, pour l'exécution de quelqu'un. Je vois pas trop de quelles sanctions il pourrait s'agir, en tout cas jusqu'à présent.
Bon,
le
fait est que pour l'instant, de toute façon, son exécution est toujours prévue, mais pas demain.
Voilà. Bon, on va avancer. On va parler un peu de ce qui fait aussi la une de l'actu au niveau de l'usage de drogue et du cannabis, avec ce rapport qui est sorti la semaine dernière, il y a une dizaine de jours.
Dans la semaine,
ouais. Ah oui, je pensais que c'était un peu plus longtemps. C'est vrai qu'à la fin, ils succèdent tous ces rapports, il y en a tellement. Rapport de consommation de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Les premiers chiffres issus du questionnaire anonyme rempli par les jeunes appelés pour les journées de défense et de citoyenneté. Donc cette étude reprend des données collectées depuis 2011,
c'est ça.
Et pas uniquement depuis 2012,
voilà, c'est bien.
Ni depuis 2014, comme le dit notre chère Laetitia Clavreul et François Béguin à la toute fin de l'article, qui nous disent 2014, date de récolte des données. Eh ben non, 2014, c'est pas la date de récolte des données. La date de récolte des données, c'est entre 2011 et 2014. Voilà, vraiment dans le monde des fois. Bon, c'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres? Alors, j'aime pas trop rentrer dedans, les décortiquer. On va quand même en trouver quelques-uns. En gros, elle dit que après 10 années de relative stagnation, voire un peu de baisse des usages et des taux de consommation de drogue, et notamment de cannabis, parce qu'on parle beaucoup du cannabis dans cet article du Monde, là en tout cas, on observerait depuis 2011, et notamment depuis 2012, non, depuis 2011,
il y aurait une remontée.
De 2011 à 2014, mais ils ont quand même un peu segmenté au niveau des années dans l'étude. Voilà, que les chiffres repartiraient à la hausse. Une plus importante consommation. Alors, les chiffres, je vais vous les donner quand même, certains. Donc, entre 2011 et 2014, je vous lis, l'OFDT observe une recrudescence importante de l'expérimentation de cannabis chez les jeunes ados de 17 ans. 47,8% y ont goûté au moins une fois, contre 41,5% 3 ans plus tôt. Soit près d'un jeune sur deux. Une hausse de plus de 6 points, mais un niveau en deçà cependant des 50,3% observés en 2003. Depuis, ce chiffre n'avait cessé de baisser. En 3 ans, la proportion de ceux qui ont expérimenté cette substance illicite, qui est le cannabis, est passée de 44% à 49,8% pour les garçons et de 38,9% à 45,8% pour les filles en 2000. Si on se remet 15 ans après, les garçons étaient autant qu'en 2014, mais les filles étaient seulement 40,9%, aujourd'hui 45,8%. Voilà. Alors, dans l'article, on nous explique aussi que le marché du cannabis est mature. Voilà. Ça veut dire que, sans le dire, finalement, les consommateurs et ceux qui les approvisionnent se démerdent bien, s'organisent bien finalement. Alors, on nous parle du développement de l'autoculture en France, avec un marché du hashish qui reste quand même stable.
Voilà. Et on nous dit quand même, en gros, sur le mode, ils sont organisés quand même, vous vous rendez pas compte. Il y a des promos, il y a des dealers qui viennent, qui préviennent de leurs arrivages par SMS.
Ah, c'est
incroyable, quoi. Bah, oui, je suis même sûr qu'ils font pas ça que par SMS. Ils utilisent peut-être même les réseaux sociaux, hein, c'est possible. Voilà, ce que nous vous déconseillons, si vous ne voulez pas avoir de problème, c'est la moindre des choses. Faites gaffe quand même avec ça. Globalement, les gens sont assez peu prudents.
Sur les réseaux
on le rapporte
sociaux,
hein. Peut-être pas suffisamment, mais c'est quand même un outil de lutte pour la maréchaussée, les forces de l'ordre, même virtuellement. Pourquoi est-ce que les jeunes en fumeraient ? Alors, c'est aussi la question qui se pose. Alors, on nous parle d'un usage pour être celui un peu d'un anxiolytique. Il y a d'autres explications aussi. On nous parle d'un monde un peu où il y a des tensions, il y a du chômage, de l'exclusion, blablabla. Oui, bien sûr. Bref, on nous parle jamais des usagers comme des personnes un peu normales et responsables qui font un choix délibéré d'utiliser une plante pour ses vertus peut-être relaxantes ou permettant de prendre du recul avec la vie ou je ne sais pas. Bref, il y a des multiples usages pour de multiples utilisateurs, donc c'est jamais très simple. Et en tout cas, il ferait peut-être bien de s'y pencher. Et là, il se pose la question, on va peut-être quand même faire des études un peu plus qualitatives pour comprendre un peu ce qui motive des gens à vouloir consommer du cannabis. Alors on nous reparle également dans cet article de l'augmentation du cannabis, du THC pardon, dans le cannabis, avec pour la première fois quelque chose qui peut tenir la route au niveau de ce constat de l'augmentation du taux de THC. Alors on nous dit qu'en 2013 le taux de concentration moyen était de 17% pour la résine et 12,5% pour l'herbe, selon l'Institut National de Police Scientifique. Donc ça voudrait dire que peut-être qu'en 2013 ils avaient conservé des substances et oui voilà, ils en avaient conservé, mais ils en avaient conservé aussi en 2003 parce que apparemment 10 ans avant, donc en 2003 c'était 7% de concentration de THC dans la résine au lieu de 17% donc en 2013, 8% pour l'herbe en 2003 contre 12,5% en 2013. Donc peut-être que là effectivement il y aurait un matériau un peu objectif permettant de faire le constat. C'est un peu la première fois qu'on peut deviner ça. Alors effectivement, après on nous dit ben il y a pas de prévention. C'est aussi pour ça qu'il y a une hausse de la consommation. La nouvelle présidente de la MILDECA, pardon, Danielle Jourdain-Méninger, dit que elle admet que faire la morale aux jeunes ça ne marche pas. Que la France a mis en place des consultations jeunes consommateurs qui permettent aussi d'accueillir les parents, ce qui se faisait déjà d'ailleurs. Ça prend du temps, il faut que ça se mette en route. Et que pour l'instant, on est en train d'expérimenter un peu ce genre de choses. Mais d'une manière générale, quand même, les différents acteurs reconnaissent qu'effectivement, il y a un petit souci dans la prévention et qu'on n'y met pas les moyens.
Et on peut pas faire de la prévention.
Parce que tant que c'est criminalisé. Et...
Ouais, voilà. C'est pas de la prévention.
C'est pas de la prévention. Alors, sans le dire dans l'article, dans les deux articles, parce qu'il y a un autre article du Monde qui s'intitule La France en retard dans la prévention. Il y a des spécialistes qui s'expriment. Et ils reconnaissent tous qu'il faut prendre les choses de manière non médicalisée, non psychologisante et non moralisante. Parce que si on fait comme ça, c'est contre-productif. Une sociologue qui s'appelle Sophie Le Garec de l'université de Fribourg en Suisse dit comme ça que l'énoncé de chiffres, c'est important, mais ça ne permet pas d'expliquer le sens des consommations. Ça ne permet pas non plus de comprendre comment intervenir et comment faire de la prévention. Et il y avait un dessin assez rigolo dans la presse où on voyait un peu des experts se gratter la tête. De toute façon, ça sert à rien ce qu'on leur dise parce qu'ils consomment de plus en plus. On est vraiment très en retard, c'est qu'on ne sait pas trop comment communiquer avec les jeunes pour essayer de les comprendre et éventuellement pour les aider s'ils peuvent avoir des questions. Voilà, effectivement, Daniel Jourdain-Méninger de la MILDECA disait qu'il y avait des consultations, jeunes consommateurs, mais que ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans cet article que, effectivement, faire de la prévention dans des classes avec des gendarmes qui viennent avec une mallette et qui disent « Attention, le cannabis est dangereux », ben ça aussi c'est contre-productif. Et qu'il faut une prévention sur le long cours avec des intermédiaires formés sur le terrain et essayer de comprendre mieux, hein, ils le disent plusieurs fois, les motivations d'usage. Qu'est-ce qu'il dit aussi Michel Reynaud un peu plus loin, qu'une politique faite par des adultes avec des yeux d'adultes n'est pas audible pour des adolescents. Ouais. Surtout, souvent, les adolescents en savent mieux que les adultes. Ouais. On savent plus que les adultes sur le cannabis, donc ça aide pas. Et sans le dire, encore une fois, sans dire qu'il faut changer, qu'il faut légaliser, ils disent la politique des 15 dernières années a fait la preuve de son inefficacité. Et Michel Reynaud, qui est médecin, il dit une révision de la loi de 70 sur les stupéfiants, soit par la contraventionnalisation de l'usage du cannabis, soit par la régulation de l'État, pourrait avoir une action conjointe sur l'ensemble des comportements problématiques. Une réflexion que refusent d'engager les responsables politiques de droite comme de gauche. Voilà. J'ai parlé beaucoup, j'espère qu'on m'a bien compris, que j'ai pas trop bafouillé. Des réactions.
C'était clair.
C'était clair, pas plus de réactions, des choses que j'aurais oubliées.
Sinon, moi, ouais. Tout ce que je voulais dire, c'est que, comme d'habitude, quand il y a ce genre de rapports qui sortent, le lendemain, beaucoup de radios, télévisions, etc., ça repart dans des débats. Faut-il légaliser le cannabis, oui ou non ? J'ai écouté quelques émissions le matin, je ne sais plus quel jour c'était.
Il y a Kouchner.
Il y a eu l'intervention de Kouchner. Il y avait aussi sur des radios dites plus de droite, peut-être comme RMC, où ils font dans l'émission de Bourdin. Quand c'est comme ça, ils posent une question et les gens, ils ont 3 heures pour répondre. Et là, la question, c'était faut-il légaliser le cannabis ? Bon, voilà, dans cette radio-là, cette émission-là, c'était plus de 64% de oui. Donc moi aussi, en même temps, ça me fait poser des questions, quoi. Je me dis que peut-être petit à petit, les gens, ils changent peut-être un peu d'avis sur la question. Et si on ferait un référendum, je sais pas quelle réponse on pourrait avoir. Ce serait peut-être encore un peu léger pour avoir oui. Mais moi, je pense aussi que, enfin, ce que le peuple pense, c'est important pour les politiques, quoi. Et le jour où on s'apercevra que 80% des gens sont pour un changement de politique, je pense que ça peut aussi aider nos chers courageux là-haut à prendre d'autres décisions, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que ça recommençait de partout, dans toutes les radios de partout, t'as des experts qui parlent, t'as des gens, alors c'est toujours pareil, hein, t'as des gens qui vont raconter des expériences dont nous on a du mal à croire. Voilà, leur fils qui a fumé du cannabis, puis finalement il a arrêté l'école, il a fait ci, il a fait ça, voilà. Après, il y a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui travaillent, qui consomment depuis 5 ans, 10 ans, 25 ans, donc voilà, on entend un peu de tout, quoi. Donc moi, je trouve que, ben, d'un côté, nous, on trouve ça un peu rébarbatif, quoi, que ça fait pas avancer beaucoup le sujet, mais tout de même, des gens s'expriment et des gens se posent des questions, quoi. Mais comme Bourdin, il disait clairement que lui, il s'y connaît rien et qu'il se pose la question, il écoute, il sait pas. Il y a plein de gens qui sont relativement intelligents, qui connaissent pas plus le sujet que ça et qui aimeraient bien comprendre. Ils entendent toutes les versions. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste un gros point d'interrogation dans leur tête, quoi. Voilà.
Et on va continuer un peu là-dessus, mais avant, on va écouter un peu de musique pour se dégourdir les oreilles.
Allez, toujours hip-hop, cette fois-ci avec le Wu-Tang Clan, ça s'appelle Gravel Pit.
1, 2, 1, 2, so check this out, it's the jump board right there. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit. The gravel pit, leave your problems at home, leave your children at home. We gonna take it back underground.
Unraveling, Wu-Tang is a city that I travel in. from the land of the lost. Behold the pale horse, off course. Follow me, Wu-Tang gotta be the best things since Starks and Clark Wallabies. African killer bees, black watch. On your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house of Haunted Hill. Every time you walk by, your back get a chill. Les Bill, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather round, count down to apocalypse. I'm the kid with the golden arms. And I'm the motherfucking hot Knicks. Pass the blunt. My nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croak in from overdosing. Hey kid, when the mouth got you open, let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Can't wanna get up, then can't get touched. Can't wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that calls you bluff when your boys try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass up.
Now listen, back, back and forth.
Styles, extremists, forehead beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping and y'all niggas drove up blasting. Shay Shay, chocolate, saute. Rich Kellamox, rock those all day. 1960 shit, I'm Goldie. That's right, motherfucker, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas paid his rock. Skin painted on my face, look ageless. Perfect combos, those bang out condos. Jet from Homo, X, we bong those bankrolls. Stank holes in plain clothes, change those bang those. Same old, same old.
Yeah, y'all. Straight up, this the jump off right here. The grapple pit, word up, represent rockin' boulders. All my rich gangster style killers, y'all know what time it is. Shorty, do your thing, get up on that right now, boo. Do yeah. You. That's yeah. What I'm talking about.
Step to my groove, move like this. When we shoot the gift, of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the text, salute this. Executing, shaking all sets. And now I'm breaking all hex. I'm taking all bets. Move on best, who want the drum next? You won't stink, we got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. Still the same kill for real. Fire your crank, slide, do or die. Fry the bank, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of shark, every part I take. Heavy darts to quake, it's on okay. K. All fakes, get caught by the drop kicks. You know the thrill, yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot grits. On the go, check the flow. Singing Wu don't rock shit. Stop quick, hold the gossip. Stop sweating my pockets, I hear the hot shit.
Check out my
Oui.
Ah, vous êtes toujours dans Cannabis Circus sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique, et pas sur le cancer. Hein. C'est pas là que ça se passe. Donc, on va continuer un peu de parler de ce rapport de l'OFDT, différentes réactions dans la presse, notamment dans le Figaro. Serge Le Bigot, alors si c'est pas Constantin, c'est Le Bigot. Si c'est pas Le Bigot, c'est Constantin. Donc les deux
font la paire.
Les deux font la paire, ouais, vraiment côté pile, côté face. Donc les ayatollahs de la prohibition du cannabis et les ayatollahs de l'anti-cannabisme, hein, puisque quand on les écoute, vraiment, si vous rencontrez le cannabis dans votre vie, bah, vous êtes mal barré. Hein, vous allez finir même pas sous un pont, je sais pas. Vous allez finir dans l'égout, je sais pas. C'est
affolant.
C'est affolant. Ouais. Donc, Monsieur Le Bigot, forcément, il s'alarme de cette augmentation dramatique de la consommation du cannabis, de la consommation du cannabis chez les jeunes. Et tout ça, pourquoi ? Eh ben, parce que c'est depuis que François Hollande est président.
Hein,
et il y a du laxisme. Il y a des ministres qui se permettent d'avoir des propos sur une éventuelle légalisation du cannabis. Donc, forcément, ça donne un signal fort à la jeunesse qui se précipite et se jette sur le cannabis et en consomme avec avidité et dans l'irresponsabilité se noie dans le désespoir. J'exagère pas à peine, mais c'est un peu ça. Je vais vous lire quand même une de ces phrases pour que vous croyez pas que j'hallucine ou, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit que révèle cette consommation de la drogue, la consommation de drogue, notamment les substances stimulantes comme le MDMA chez les adolescents dans notre société. Donc voilà, le journaliste pose une question sur la consommation des drogues, les substances stimulantes comme la MDMA, et qu'est-ce qu'il dit monsieur Le Bigot. Il dit on entend souvent que tous les jeunes ou presque ont déjà consommé de la drogue, mais c'est faux. Dans les lycées où je fais de la prévention, il doit y avoir 30% d'élèves qui en prennent ou qui en ont pris. Et ce discours entretient le message « tout le monde consomme, légalisons ». Ce qui est effectivement inquiétant, c'est l'augmentation des consommateurs réguliers au minimum 10 fois par mois et quotidien, où l'on est passé de 500 000 à 700 000. Quand on sait les dégâts que fait par exemple le cannabis au cerveau, on ne peut que s'inquiéter. Je remarque qu'il y a de très nombreux adolescents qui ont des problèmes familiaux, divorce ou encore absence de parents. La structure familiale est ainsi totalement cassée en France, ce qui génère de très nombreux problèmes dont une grande fragilité des jeunes. Je suis d'ailleurs toujours surpris d'entendre des enfants me confier « Mon père, ma mère ne m'a jamais dit je t'aime ». Comme c'est beau, monsieur Le Bigot, comme c'est beau. Il y a également un manque criant d'information des parents. Très souvent, je reçois des parents qui ne se sont pas rendus compte que leur enfant se droguait depuis 5 ou 6 ans. Des adolescents se réfugient dans les drogues car ils estiment que cela leur permet de parler, certes, mais qu'avec des consommateurs, en gros, ils parlent entre eux, les consommateurs, mais c'est qu'une fausse solution qui cache un enfer, la dépendance. Voilà. Ça fait peur, hein. Donc, mieux que l'Amil Deka, l'Amilt, ou je ne sais qui, ou Sarkozy, Serge Le Bigot, vraiment tombé sur le dragon, quoi. Hein. Donc, le journaliste du Figaro fait une nouvelle question. En 2014, près d'un jeune sur deux a fumé un joint. Leurs fréquences de consommation ont également augmenté. Près d'un jeune sur 10 en consomme régulièrement. Que vous inspirent ces chiffres sur la consommation des drogues douces? Donc on mélange tout, drogue douce, cannabis, amphétamine, MDMA. Bon, pour monsieur Le Bigot, c'est tout pareil, mais le cannabis, bien sûr, en tête. Donc il dit comme ça, à mes yeux, le terme de drogue douce est mensonger et non scientifique. Soit c'est une drogue, soit ce n'en est pas une. Bon, là-dessus, il dit pas que des grosses bêtises, mais bon. Nous connaissons actuellement beaucoup de choses sur les dangers du cannabisme. Séquelles psychologiques, schizophrénie, rapport avec le suicide. Or, on ne fait pas assez connaître ses conséquences aux jeunes. Donc voilà, ça va mal se passer pour vous, vous allez vous suicider.
Voilà.
Quelles mesures adopter pour lutter contre cette hausse de la consommation de drogue chez les plus jeunes? Alors là aussi, il déplore un manque de prévention. Alors, là-dessus, on peut être d'accord avec lui. Il dit qu'il faut commencer très jeune. Il parle de la Suède, ce qui est là un bon argument. Par contre, c'est vrai qu'en Suède ou dans les pays du Nord, globalement, ils prennent la question de la prévention beaucoup plus tôt. Voilà, ils prennent la question de la prévention sur la dépendance plus tôt, mais avec dans un package, hein, si j'ose dire. C'est un mauvais terme, hein, où on parle de plein d'autres choses d'ailleurs, sur les violences faites aux femmes par exemple. Je suis pas sûr que monsieur Le Bigot, qui incarne la droite ultra un peu écato de France, soit d'accord pour que dans les écoles on fasse de la prévention sur les violences faites aux femmes, ou qu'on parle un peu plus d'égalité hommes-femmes dans l'éducation. Il est plutôt proche du mariage pour tous, monsieur Le Bigot, donc il est bien gentil de nous prendre l'exemple de la Suède ou des pays du Nord pour nous parler de ça uniquement sur la question des drogues, sauf que là-bas ils le font un peu plus globalement, donc c'est pas très honnête, je trouve, de sa part. Donc voilà, il dit quand même qu'il faut faire de la prévention à partir du CM1 et du CM2. Il parle de l'alcool à ce moment-là, du tabac aussi. Il dit qu'il faut aussi faire ce travail dans les entreprises et dans chaque commune. Il faudrait qu'il y ait une journée par an dédiée à la lutte contre la consommation de drogue.
Ouais,
blablabla. Voilà. Bon.
Parce qu'il faut voir ce qu'il entend par prévention, quoi.
Oui, oui, oui. Non, mais là, effectivement, on est. Je pense que lui, il est plutôt dans le gendarme qui vient avec sa mallette.
C'est ça. Voilà.
Devant des enfants de 7 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Le Bigot, pour celles et ceux qui voudraient légaliser le cannabis? Ah, que c'est une chose stupide, bien évidemment, qui n'arrangera en rien les choses. Vous allez voir la chute de son argumentaire. Donc, essayer de faire croire que les trafics s'arrêteront avec cette légalisation, c'est vraiment mal connaître le système du deal. Un dealer qui gagne 4000 euros par jour n'ira pas travailler au SMIC. Ça existe au pays des bisounours, mais pas dans la réalité. On ne pourra d'ailleurs pas légaliser tous les taux de la molécule du cannabis. Même les Hollandais considèrent que le taux supérieur à 15% est très dangereux et veulent le classer comme une drogue dure.
Ouais,
jamais entendu parler de ça. Hein. Ouais. Donc si on légalise les taux entre 1 et 8%, les dealers, eux, vendront entre 8 et 30, vendront du cannabis qui a un taux de THC compris entre 8 et 30%. Le problème ne sera donc absolument pas réglé. Les élus qui veulent légaliser le cannabis viennent d'une génération qui considère que l'on peut tout autoriser. Or, c'est faux. Un pays qui permet tout, c'est l'anarchie.
Ouais.
Donc voilà, au final, si on légalise la drogue et le cannabis, hein, non seulement vous allez tomber dans l'enfer et le suicide, et de toute façon, c'est la fin de la civilisation. Voilà, en fait, aussi. Bizarrement, au Colorado, c'est pas ce qui s'est passé jusqu'à présent, ni dans l'État de Washington, ni dans l'Alaska, ni dans l'Oregon, ni même en Uruguay. Pour l'instant.
Mais c'est justement là aussi, c'est que ces gens-là, tels que ce monsieur, ils arrivent à se servir de ces pays qu'on légalisait pour les donner comme mauvais exemple.
Oui, alors.
Et là aussi,
c'est le comble de la mauvaise foi. Vraiment,
exactement.
Le comble de la mauvaise foi.
Exactement.
Donc voilà un peu la réaction de monsieur Le Bigot. Il y avait un autre article pas mal aussi dans Le Point. Un petit article rapidos qui fait un peu une espèce de comparaison des systèmes législatifs dans les pays. On nous parle des Pays-Bas qui ont dépénalisé depuis 76 avec des règles où on peut pas avoir une école à plus de 250 mètres d'un coffee shop, notamment une règle renforcée en 2008. Alors effectivement, avec cette tolérance dans Le Point, on comprend que et on observe que ça a fait l'objet d'un narcotourisme, d'un canatourisme, mais que ça n'a pas pour autant entraîné une hausse de la consommation dans le pays. Pas plus de consommation non plus dans d'autres pays qui sont peut-être moins tolérants que la Hollande, mais qui sont plus tolérants, beaucoup plus tolérants que la France, comme la Belgique, l'Italie, la République tchèque qui a carrément dépénalisé, ou l'Allemagne. Et dans ces pays, on ne peut être poursuivi pénalement pour consommation de cannabis. Alors, dans d'autres pays, il y a plus des avertissements, des sanctions administratives, notamment en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en Suisse. Les consommateurs ne risquent qu'une sanction administrative ou une amende. Au Danemark, la consommation de cannabis n'est pas explicitement interdite. Bon, elle est assez élevée au Danemark, un pays où aussi on consomme beaucoup. Mais on reçoit dans tous ces pays éventuellement un avertissement ou une sanction administrative. Et dans les pays les plus stricts comme la France, eh bien, on nous rappelle qu'il n'y a pas de distinction entre les drogues dites douces et les drogues dites dures. Et qu'en cas de consommation de cannabis, l'infraction est pénale. Pénale est constituée et que dans les textes, le simple usage de cannabis est passible d'un an de prison et de 3750 euros d'amende selon l'article L3421-1 du Code de la Santé publique. La consommation à la peine de prison n'est toutefois jamais rendue. Ah, carton rouge, Le Point, ben non, c'est pas vrai. Alors on sait bien que, voilà, en France, encore aujourd'hui, il y a quand même à peu près 1000 incarcérations, 1000 peines de prison par an qui sont prononcées, 1000 incarcérations et 3000 peines par an, pardon, à de la prison ferme qui sont prononcées. Il y en a qui sont appliquées environ 800 000 par an, donc c'est faux de prétendre que compte des utilisateurs. Donc c'est faux de dire qu'en France, la sanction n'est pas appliquée par les tribunaux. C'est pas vrai. Voilà. Et donc dans cet article, on nous dit qu'en Suisse et en Finlande, des législations aussi sévères qu'en France existent. Voilà, c'est les trois pays où les lois sont les plus dures. Effectivement, en Suède, il y a très peu d'usage. Bon. Alors, pour finir, donc l'argumentation du journaliste, qui est assez intéressante, c'est de dire que, quelle que soit la législation en cours, qu'elle soit répressive, très répressive, comme c'est le cas en France, aussi le cas en Suède, avec des niveaux d'usage très très différents, et avec plus de tolérance, où il y a quand même une moindre consommation qu'en France, finalement, c'est difficile de se faire un avis, d'avoir une, comment dire, un résultat fiable et définitif qui pourrait dire avec tel système législatif, il y aura tel taux d'usage ou pas. Finalement, on peut pas trop savoir. Donc il est pratiquement impossible de dégager une corrélation évidente entre les politiques pénales en place et la consommation de cannabis. Des sommes considérables sont investies dans une véritable guerre contre la drogue, mais les résultats sont souvent faibles. Aussi les chercheurs s'interrogent-ils, ne vaudrait-il pas mieux consacrer cet argent à la prévention et sortir de la prohibition, et faire en mettre en place une nouvelle législation? C'est dommage qu'ils ne soient pas allés aussi loin, ce journaliste ou cette journaliste. Antoine Matta, voilà, dans lepoint.fr. Voilà un peu tout ce que ça a suscité dans la presse. Et encore un article pas mal aussi, c'était dans le Parisien, les parents accros aux tests anti-drogue. Ah ouais. Et ouais, ben oui, il y a beaucoup de parents qui veulent savoir, en fait, si leurs enfants consomment des drogues, et notamment, plus particulièrement, du cannabis. Il y a une boîte française qui s'appelle Narcocheck, premier producteur français selon son patron. Narcocheck donc vend des tests urinaires qui servent à vérifier si on peut être
urinaire.
Ouais.
Tu peux rappeler combien de temps il y a des traces dans l'urine?
Si on est un gros consommateur et si on arrête de fumer, faut attendre un bon mois avant de plus voir aucune trace, un mois, voire un peu plus.
Donc voilà, c'est vraiment du flicage sur du long terme, quoi. Ils veulent savoir si leur fils ou autre a consommé déjà, quoi.
Ouais. Donc, il y a des jeunes qui visiblement sont sous pression dans leur famille avec ça. Alors, les professionnels disent que c'est pas une très bonne idée de faire ça à ses enfants. Qu'il vaut mieux faire ça dans un cadre d'un accompagnement avec des professionnels, parce que forcément les ados peuvent se sentir trahis par leurs parents ou voir que leurs parents les flics et entrent dans leur intimité. Quand on est un ado, c'est quand même important, cette question-là. Il faut pas non plus faire n'importe quoi avec ses enfants. Et y a des ados qui disent moi j'ai pas voulu et mes parents m'ont menacé de me faire hospitaliser si je voulais pas passer le test urinaire anti-cannabique. Enfin, anti-drogue, pas uniquement anti-cannabique. Donc voilà, cette jeune fille, Sarah, 16 ans, qui dit sur un forum internet, ils m'ont obligé à faire le test. Je m'inquiète qu'il reste de la substance dans mon corps car ils me menacent de me faire hospitaliser si c'est positif. Ça fait peur. Hugo, 18 ans, lui, il a pas eu le choix. Voilà. Mais avec le recul, dit-il, quoique gêné par cette pratique intrusive, il reconnaît que l'analyse objective de sa consommation l'a amené à cesser de fumer. Espérance, elle, a réussi à restaurer la confiance avec son fils sans passer par les tests. Elle dit, on s'est confié mutuellement, je pense que ça a enlevé un poids, mais ce n'est pas gagné pour qu'il ne recommence pas. Ouais, surtout si on le flic, va se planquer encore plus pour fumer, quoi. Donc pour apporter une réponse individuelle et adaptée aux consommations de substances psychoactives d'un adolescent, il est essentiel de comprendre d'abord pourquoi il en ressent l'envie. Résume-t-on à la 1000 DK. Ils sont bien rigolos, les 1000 DK. Or, le recours au test de dépistage, s'il peut dissuader la consommation, n'est pas vecteur de dialogue sur ce qui la motive. Ah, ça nous renvoie un peu aux premiers articles de notre revue de presse et avec ce que disait cette sociologue française Sophie Le Garec, qui disait donc voilà qu'il faut arrêter de médicaliser, de psychologiser, de moraliser l'usager, qu'il y a des usagers que c'est peut-être pas que des malades, ils ont peut-être pas que des problèmes psychologiques, et on ferait peut-être mieux de s'intéresser objectivement à ce pourquoi ça les motive de vouloir utiliser du cannabis. Voilà. Et je suis pas sûr qu'un test d'urine, ça peut contribuer à tout ça, quoi. Donc voilà, si vous êtes jeune, vous êtes ado, que vous nous écoutez, ça peut être le cas, que vos parents vous menacent, voilà. Et n'hésitez pas à contacter le CIRC, on peut éventuellement vous orienter vers des professionnels sympas Notamment si vous êtes dans la région lyonnaise, il y a un XAPA à l'hôpital des Portes du Sud à Vénissieux-Fézin, où il y a des professionnels, des médecins voilà, qui sont quand même assez compétents et concernés et qui vous la feront pas à la dure et qui essaieront de vous écouter, vos parents aussi, et les rassurer. Voilà. Je vous invite à entrer en contact avec nous, avec le cirque, ou aller directement sur internet, vous tapez CSAPA, Hôpital Fézin Vénissieux, Porte du Sud. Il y a un XAPA à l'hôpital de la Croix-Rousse aussi, où là-bas vous pouvez discuter avec quelqu'un qui peut vous orienter après, peut-être ailleurs si c'est pas adapté. Mais voilà, il y a quand même des professionnels qui sont là en France et il faut les interpeller, il faut aller les voir si vous avez un problème, si vos parents sentent qu'il y a un problème avec vous et qu'ils vous suspectent de consommer, ou si vous pouvez pas en parler en famille, ou si vos parents ont peur ou sont désespérés, bref. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas sans ressources. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Encore un tout petit peu de musique. On n'a vraiment pas le temps de parler de la lutte contre les drogues, une guerre raciale, point d'interrogation. Un super article dont on a peu parlé la semaine dernière. Tu veux écouter de la musique ou tu veux que je parle de l'article? Parce que il est quelle heure? Moins 10.
Parle de l'article.
T'as pas un petit morceau de musique court
Ah, écoute, c'est calé, mais on peut mettre qu'un petit bout, on n'est pas obligé de l'écouter en entier.
Allez, hein. Un peu allez. De musique.
Parce que et bah, du coup, on retourne avec Disposable Heroes of Hypocrisy, un autre extrait qui a donné le titre à l'album, ça s'appelle Hypocrisy is the Greatest Luxury.
Be so complex, we don't make the time to stop or reflect. I know from first-hand experience, one can go delirious. Seriously, it can be like that. But before I put my foot in my mouth, cause that's what I'm about to start talking about, please let me confess before all the rest that I'm afflicted by this, addicted like most in the U.S. It's tough to make a living when you're an artist. It's even tougher when you're socially conscious. Careerism, opportunism can turn the politics into cartoonism. Let's not patronize or criticize. Let's open the door and look inside. Pull the file on the state of denial. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. The base, the trouble, don't make a rebel. Having your life together does. America has an image of a young one, fast living, not given an expletive. No respect for his or the lives of those around him. Suicidal, homicidal, or at very least extremely unbridled. How convenient for those who would like to destroy him. The problem has never been our political logic, but the way we enact it. We can imagine a perfect society that can maintain a decent relationship. The failure found in the luxury, not in the hardship. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard.
The next section is devoted strictly to great sounds. Just sounds we consider to be very exciting and worth listening to.
Allez, on va repartir tous ensemble pour terminer cette émission. Il nous reste 5 minutes donc après les Disposable Heroes of Hypocrisy, un peu de hip-hop, et on va parler d'un sujet qui nous touche tous et toutes. Encore une fois, c'est la lutte contre les drogues, la lutte contre qui, la lutte pourquoi, et à l'initiative de l'AFR, l'Association française de réduction des risques liés à l'usage des drogues, et le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, le think tank République et Diversité, lance donc une campagne qui s'intitule « Guerre aux drogues, guerre raciale ». Qui reprend un peu cette idée nord-américaine qui a été d'abord lancée par l'auteur de L'Empereur est nu, Jack Herer. C'est ce dont il parlait hein, dans L'Empereur est nu, déjà il y a 30 ans. C'est déjà ce qu'il disait, que la guerre contre les drogues et la guerre contre le cannabis aux États-Unis était une guerre contre les minorités. Et cette idée a fait son chemin et elle a été analysée et prouvée scientifiquement par une chercheuse états-unienne, Michelle Alexander, qui a écrit un bouquin il y a 3 ans qui s'intitule The New Jim Crow, Mass Incarceration in the New Age of Color Blindness. C'est un peu dur à traduire comme ça. The New Jim Crow, c'est quoi? C'est cette loi de discrimination, de ségrégation raciale votée aux États-Unis dans les années 50. Et elle reprend ce terme pour dire voilà, preuve à l'appui, preuve, c'est-à-dire statistique ethnique des incarcérés dans le système judiciaire américain. Elle démontre, parce que là-bas, on peut se servir de ces statistiques, elles existent. En France, elles n'existent pas. Même si différents sociologues ont réussi quand même à le démontrer en faisant des enquêtes de terrain. Je pense à Laurent Mucchielli notamment. Donc voilà, Michel Alexander a bien démontré que la guerre aux drogues aux États-Unis, c'était vraiment une guerre raciale, et que les principales victimes de cette guerre étaient des Noirs, des gens issus des minorités latino-hispaniques, et qu'à contrario, les Blancs finalement étaient assez peu concernés par les peines de prison et les incarcérations, alors qu'ils consomment tout autant, voire sans doute même un peu plus de substances psychoactives que les autres, mais ils ne sont pas visés par les lois. Voilà, donc l'AFR et le CRAN et le Think Tank République et Société Diversité pardon, lancent cette campagne et veulent interpeller par là les pouvoirs publics et les décideurs, les politiques encore une fois, sur le fait que voilà, quelles sont les conséquences de la guerre à la drogue, c'est d'être une loi raciste, voilà, une loi discriminante. Parler de race, c'est peut-être choquant par rapport à notre univers républicain, mais la réalité, c'est que la lutte contre les drogues touche de façon disproportionnée les minorités ethniques. Voilà ce que disait Olivier Maguet. L'association ne peut, donc, comme je disais, se baser sur des statistiques ethniques interdites en France, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où associations et citoyens peuvent baser leur réflexion sur ces données. Donc cette campagne peut être faite parce qu'il y a d'abord eu une enquête menée en 2009 à Paris à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative. Et c'est en fait la fondation de George Soros, qui finance des campagnes un peu partout en Europe et dans le monde, qui a financé la première campagne visant à légaliser le cannabis en 2008 en Californie. Il avait filé $1 million. Donc Soros, voilà, est un philanthrope, un milliardaire, hein, capitaliste, tout ce qu'on veut, hein. Et il utilise sa fondation pour défiscaliser ses revenus, mais il finance quand même des campagnes intéressantes.
Donc il a en vue aussi, s'il y a légalisation, évidemment, il aura la main sur le marché. Hein. C'est des gens, de toute façon, ils ne font pas rien pour rien.
Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Après, lui, il n'est pas trop dans l'agriculture, un truc comme ça, je crois. Bon, je ne sais pas, mais oui, tu as raison. De toute façon... Ils sont là pour prendre devant, derrière, sur le côté. Ils sont gagnants à tous les coups de toute façon, quoi. Bon, voilà. En tout cas, il finance cette campagne. Il a financé une recherche. Il a financé pas mal de choses aussi aux États-Unis, comme je disais, dans d'autres pays d'Europe de l'Est, où il aide à financer la mise en place de systèmes de réduction des risques en Roumanie, dans les nouveaux pays membres, en Hongrie, en Bulgarie. des financements pour mettre en place des programmes d'échange de seringues, la substitution, l'accès aux préservatifs pour les prostituées, voilà, beaucoup de choses comme ça. Il avait donné de l'argent à une coordination parisienne-française pour la marche mondiale en 2011.
Exact.
Également.
Cassud, non ?
Avec Cassud, tout à fait.
Ça.
Voilà, donc on va le faire en plusieurs parties, cet article, parce qu'il est assez, assez long. Je voulais vous citer deux, trois autres phrases intéressantes. J'ai perdu ma phrase. Ah oui, politique du chiffre avec contrôle aux faciès, la situation devient vite oppressante. Ce n'est pas la police qui est raciste, je n'accuse pas le simple flic qui fait son boulot, mais les gouvernements de droite comme de gauche d'avoir obligé les flics à appliquer cette politique du chiffre, explique Olivier Maguet. L'interpellation des sans-papiers, les infractions au code de la route et les stupéfiants sont en France les trois infractions qui permettent d'interpeller sans enquête préalable. La police se concentre donc dessus parce que cela augmente les statistiques. Et les primes de fin d'année, on ne trouve que ce qu'on cherche, rajoute Slim Benachour, qui est un avocat spécialiste des discriminations raciales, et qui dit comme ça, les policiers cherchent des Arabes et des Noirs à contrôler, à force, ils finissent forcément par trouver quelques infractions, comme celles liées aux drogues, et il y a une chasse ethnique dans la chasse aux drogues, la guerre aux drogues est aussi utilisée à des fins de contrôle des minorités ethniques dans les quartiers. Un peu plus loin, il rajoute comme ça, c'est vrai qu'on interpelle toujours les mêmes dans les mêmes endroits. La police arrête des jeunes des milieux défavorisés dans leur quartier et parmi eux, on compte plus de Noirs et d'Arabes. En plus, en France, la discrimination est davantage liée à la pauvreté. Donc voilà, ce ne sera pas qu'une guerre raciale, mais aussi une guerre sociale, une guerre de classe. Donc la discrimination est davantage liée à la pauvreté et au lieu de vie, plus qu'à la couleur de la peau elle-même. Moi, je pense que tout s'entrecroise, hein, tout est lié, en fait. On a le sentiment d'un système inégalitaire, mais il est la reproduction d'une société inégalitaire. Quelqu'un rajoute plus loin, la dimension sociale intervient. Il faudrait donc voir s'il y a des effets combinés entre race, classe et lieu d'habitation. Voilà. On continuera prochainement. Cet article est très riche et il nous tient à cœur d'en reparler. Parce que vraiment, là, on est au cœur de la guerre contre la drogue, la guerre contre les usagers de cannabis, bien ciblée. Voilà, on va se quitter, et avant de se quitter, on va reparler une dernière fois. Vous vous rappelez que samedi, à partir de 14h30, départ 15h, la marche mondiale du cannabis, on ne sera pas les seuls à marcher, on sera des millions dans le monde, des millions. Au moins une centaine de milliers déjà en Amérique latine, à Buenos Aires ou à Rio comme l'année dernière, au moins 10 000 comme à Berlin l'année dernière aussi. À Londres également, il y aura beaucoup de monde à Madrid, beaucoup de monde à Barcelone, à Rome. À Rome, plusieurs milliers de personnes sont attendues. Voilà, il faudrait quand même qu'on montre au reste du monde et à l'Europe qu'en France aussi, on veut faire changer les choses, qu'on est prêt à se bouger et qu'on arrête d'avoir peur.
Exactement.
Qu'on n'a pas peur. De ce système politique qui nous opprime, nous empêche de fumer du cannabis chez nous sans faire de mal à personne. On parle même pas d'en fumer dans la rue, hein. Même si s'il y avait une loi, ça pourrait peut-être faire changer des choses à ce niveau-là aussi. Mais voilà, tout ce qu'on veut, c'est plus être considéré comme des délinquants. Et cette marche mondiale, c'est l'occasion de pouvoir le crier, de pouvoir dire qu'on veut que ça change. Et le faire aussi bien que les autres Européens.
Donc voilà. C'est samedi 2 mai, 14h30, place Carnot.
Départ 15h, en direction départ de la place 15. Des terreaux. Voilà.
Allez, bonne soirée à tous.
Et maintenant, c'est Chasseur de son. Chasseur. Il y aura chasser le son à la marche mondiale également.
Chasseur.
Allez, au revoir, à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci d'être fidèles à Cannabis Circus et au Cirque Lyon. Au revoir.